France Culture.
Les nuits de France Culture.
Critique littéraire, enseignant à l'Université de Lille, Alain Buisine, disparu en 2009, aura signé de nombreux ouvrages, notamment sur Proust, Sartre, Pierre Loti, Eugène Hadjet et Huysmans. En 1995, il publiait chez Talendier « Verlaine, histoire d'un corps », une biographie du poète à propos de laquelle il écrivait « Je désirerais mettre un terme à l'entreprise si typique de la critique verlainienne qui consiste à protéger la pure inspiration poétique de l'indigne pourceau qui en est miraculeusement habité, à mettre la sublime quintessence de l'œuvre à l'abri des infamies et des trivialités de la vie. Il suffit vraiment, il est grand temps d'opérer un radical renversement. » Quelques semaines après la parution de cette biographie, Alain Buisine était invité à la présenter dans « Du jour au lendemain » où il s'entretenait avec Alain Weinstein. Alain Buisine y disait notamment combien l'avait éprouvé tout le temps qu'il avait passé en compagnie de Paul Verlaine pour rédiger cet ouvrage. Du jour au lendemain, Alain Buisine pour Verlaine, Histoire d'un corps, première diffusion le 16 février 1996 sur France Culture.
Du jour au lendemain, Alain Weinstein, bonsoir. Les faiseurs de verre, ces vauriens, ces maroufles, ces fainéants barbus, mal peignés. Du jour au lendemain, avec Alain Buisine qui publie Verlaine, Histoire d'un corps, aux éditions Talendier. Quand c'est beau la musique, Alain Buisine, j'ai du mal à commencer à parler.
J'aime pas trop l'idée d'un Verlaine musical. Vous savez qu'on a organisé cet an dernier des manifestations musicales sur Verlaine et je préférerais qu'il ne soit pas trop musical. Mon Verlaine n'est pas en musique.
Pas de musique avant toute chose.
Pas de musique, non. Pas de musique pour mon Verlaine.
Je vais tout de même rappeler, avant d'entrer dans le vif du sujet, que vous êtes enseignant de littérature française à Lille, à l'Université de Lille, et que vous avez publié de nombreux essais. Parfois, vous êtes venu ici pour en rendre compte. Je vais rappeler quelques titres. « L'aideur de Sartre », justement, c'était à Lille que vous avez publié ça, aux presses universitaires de Lille, en 86. « Proust, samedi 27 novembre 1909, chez Lattès », c'est une collection qui s'intitulait, je ne sais pas si elle existe encore, « Une journée particulière ».
C'est une collection que j'avais inventée d'ailleurs, mais malheureusement je crois que le responsable a perdu un peu le fil de la chose, qui est Olivier Barraud, et je suis un peu désolé parce que je pense que c'est une belle idée. Voilà, c'est une belle idée de raconter comme ça la journée d'un écrivain. Et donc je suis désolé que les choses se soient un peu perdues.
un titre qui va rappeler à nos auditeurs des souvenirs, L'Orient voilé, parce que vous étiez venu effectivement parler chez Ulma, il n'y a pas très longtemps, 93, et Eugène Adjé, ou La mélancolie en photographie, chez Jacqueline Chambon, 94. Là, vous étiez venu en parler aussi, mais vous n'étiez pas très content, parce qu'il y avait des spécialistes, des critiques de photos qui étaient avec nous, et qui vous avaient opposé certaines objections.
De résistance.
Voilà. Alors, tous ces livres, on pourrait penser que c'est un peu décousu, et pas du tout. Il suffit de lire, d'ailleurs, la quatrième de couverture de votre Verlaine, le plus récent, pour voir qu'il y a une unité dans tout ça. Tous ces livres, peut-on lire, s'interrogent sur l'inscription du corps dans la création littéraire, picturale et photographique. Donc, il y a véritablement un projet derrière tous vos projets de livres.
Oui, c'est quand même... Je reste comme le 9e livre, il faut le dire, sans mégalomanie, mais enfin, c'est un véritable travail, donc c'est une continuité. Et je crois que tous ces livres ont une unité absolument fondamentale, grande. C'est qu'à chaque fois, je me demande, qu'est-ce qu'un créateur fait de son corps quand il se met à créer? Vous savez, c'est pas une évidence, je veux dire... Qu'est-ce que Sartre fait de sa tête? Vous savez que Sartre avait un problème à un œil, etc. Et qu'est-ce qu'il fait de sa tête? Et ça le détermine énormément. Qu'est-ce que Proust fait de son asthme? Le prochain travail sera sur Tiepolo. Enfin, Tiepolo, qu'est-ce qu'il fait de, du fait de regarder le plafond?
Donc, vous allez nous faire monter au 7e ciel?
Oui, je vais essayer que les choses prennent leur envol. Donc, ce qui m'intéresse, moi, dans un créateur, c'est qu'est-ce qu'il fait, comment il organise son corps, comment il gère son corps, etc. Et donc, de livre en livre, vous savez, Adjet, c'était pareil, enfin, Adjet, avec ses histoires de prostituées à la fin de sa vie, etc. Comment on gère un corps, et comment on gère un corps pour en faire un objet de création. Alors évidemment, tout le monde me dit, j'ai moi-même eu un problème assez important à l'œil, tout le monde me dit, c'est une autobiographie. Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est mon autobiographie par sujet interposé.
En tout cas, c'est une approche différente de la biographie.
Oui, une approche différente simplement, si vous voulez. Bon. Le Sinistre Troya a publié il y a 3 ans une biographie de Verlaine.
Ouais.
Et on m'a signifié dans la presse, dans l'Express, pour être précis, parce que de temps en temps, il faut le dire, que finalement, je reprenais les choses, etc. Je recommençais un même trajet. Alors là,
j'ai copié.
Oui, non, mais je veux dire, l'idée que je puisse copier Troya, mais...
Surtout que dans le livre lui-même, vous lui réglez son compte en quelques lignes.
Un peu scandaleux.
Assez méchante, je dois dire.
Oui, je suis assez méchant, parce que je pense, si vous voulez, que l'histoire de Verlaine, c'est un trajet corporel. Verlaine, c'est quelqu'un qui ne s'est pas sorti de son corps. Alors, il ne s'est pas sorti de son corps sur la sexualité, la bisexualité, l'alcool, les prostituées, tout ce que vous voulez. Et Troya fait comme si, finalement, l'histoire de Verlaine, c'était en dépit de son corps. Hein, je veux dire, il y aurait un Verlaine merveilleux, enfin, angélique... parfait, poétique, etc., en dépit du corps qu'il avait. Et moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que mon Verlaine, il est égal à lui-même parce qu'il a ce corps-là. Et c'est son corps à lui qui fait sa poésie. Alors, je ne suis pas très enchanté, évidemment, qu'on puisse comparer les choses.
Donc, c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas hésité à proposer une nouvelle biographie de Verlaine, parce qu'il en existe, tout de même.
Ben, c'est-à-dire, bon, pour ce qui est de Verlaine, il y avait des biographies classiques, hein, les biographies du 19e, et puis finalement il y avait les biographies de petit-fils, hein, qui est un classique, petit-fils ayant de la peine à prendre en compte le corps de l'écrivain, et puis il y a ce massacreur qui s'appelle Troya, qui a massacré Verlaine, vous savez, qui vient de massacrer un autre, enfin, je veux dire, il en massacre un tous les 2 ans, enfin, je ne sais même pas s'il massacre lui-même, d'ailleurs, j'en arrive à me demander s'il les écrit lui-même, mais
moi, je pense... Ce que vous appelez massacre, c'est le passage...
Massacre, je veux dire...
Tamis de la morale.
Mais ça veut dire, enfin, qu'est-ce que dit Troya ? Troya dit, Verlaine est un salaud, mais sa poésie est quand même très belle. Voilà. Et moi, je pense que c'est un discours intolérable. Je dis une chose tout à fait différente. Je dis, d'abord, sa poésie est telle qu'elle est. Premier point. Et il la fabrique avec son corps. Et donc, je trouve que... Non, mais vraiment, vous savez, c'est peinant, quand même. C'est peinant qu'on traite les écrivains comme ça. L'idée d'un Verlaine qui serait lui-même en dépit de ce qu'il fait, c'est véritablement catastrophique. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais... J'ai une vraie peine. Je veux dire, le Verlaine de Troya me fait une vraie peine.
On ne va pas s'obséder sur ce livre. Parlons plutôt du vôtre. Vous avez voulu, au contraire de Troya et d'autres biographes d'ailleurs, redonner toute son importance au corps de Verlaine et montrer les liens qui unissent intimement le corps et la poétique.
Bon, l'idée que j'ai, si vous voulez, sur Verlaine, c'est... Bon, Verlaine invente une notion qu'il est poète maudit. Hein. Bon, maintenant, qui est une notion très banale, enfin, on parle de poète maudit, maintenant, c'est une espèce de stéréotype, mais c'est quand même Verlaine qui l'a inventé. Et donc, Verlaine invente ses poètes maudits, et ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire, un poète maudit? Ça veut dire que il invente une notion telle que un écrivain ne sera plus séparable de son corps. Hein, je veux dire, un écrivain est l'image qu'il a de son corps. Alors, ce que j'ai voulu montrer dans cette biographie, ce que j'ai voulu montrer tout simplement, elle s'appelle Verlaine, Histoire d'un corps, je voulais montrer que finalement l'itinéraire poétique de... ou non poétique de Verlaine, ça n'était pas un itinéraire... spirituel, de la sagesse, enfin la conversion, etc. Je voulais montrer que c'était un type qui se débrouillait avec son corps, et qu'au fur et à mesure qu'il se débrouillait avec son corps, sa poétique changeait. Alors ce qui m'intéresse, c'est justement ces changements, ces différences de poétique, au fur et à mesure que le corps évolue. Mais vous savez, le corps de Verlaine, c'est quand même bon... Il s'est cassé très vite.
Il n'a jamais cherché à le protéger.
D'abord, il n'a jamais cherché à le protéger. Et puis, dès que Rimbaud l'a quitté, le corps s'est effondré. Donc, ça veut dire que Verlaine a 35 ans. C'est déjà un vieillard. Et les choses vont très vite. Et les dernières années sont affreuses. Enfin, j'essaie de le montrer dans ce livre. Enfin, vous savez, il va de séjour hospitalier en séjour hospitalier. Et... C'est un vieil... Enfin, il meurt à un peu plus de 50 ans, complètement décavé, complètement laminé, lessivé, etc.
Il meurt il y a 100 ans, et qu'il meurt il y a quelques jours, hein, puisqu'il est mort le 8 janvier 1896.
Il est mort... comment dirais-je ? Il a eu l'intelligence de mourir un siècle avant, le même jour que... notre président. Il se trouvait que je faisais une conférence ce jour-là, à Sedan, hein, qui est un lieu proche, un lieu verlainien proche, et en principe, un tas de choses étaient prévues pour la mort de Verlaine, mais bon, je dois reconnaître qu'à juste titre, cette mort de Verlaine est un peu éteinte, un autre deuil a effacé le précédent, mais... Je trouve que c'est sympathique. Je dirais pas que Mitran est mort un siècle après. Je dirais que Verlaine est mort un siècle avant et que Verlaine a bien choisi son jour.
Oui. Ça a quand même provoqué aussi quelques livres, ce centenaire.
Oui.
Vous trouvez pas ça malheureux quand on s'intéresse à un écrivain que quand il y a une occasion comme celle-ci, un anniversaire?
Mais vous savez, bon. Comment dire les choses, parlant en termes d'écrivain, de façon très modeste. Vous n'avez les contrats que parce qu'il y a les centenaires. Et j'aurais proposé ce Verlaine il y a 2 ou 3 ans, ou 2 ou 3 ans après, il n'aurait jamais eu lieu. Alors c'est sinistre, oui. je crois que tout à l'heure j'en ai parlé, je fais un Tiepolo, mais Tiepolo est mort il y a... en 1696, il y a exactement 300 ans, et voilà, vous n'avez que les contrats que parce que parce que c'est des morts. Ben oui, on est dans le funèbre, et c'est pas... Oui, c'est pas exaltant.
Votre livre, Alain Buzyn, c'est 500 pages, peut-être même un peu plus de 500 pages, et pourtant c'est pas du tout une biographie américaine, puisque c'est l'histoire d'un corps, vous le disiez, mais qu'est-ce que ça fait de vivre avec le corps de Verlaine comme ça pendant 500 pages?
Ça ne fait pas de bien, il faut le dire, je veux dire, ça ne vous remet pas la santé en place, enfin je veux dire, oui c'est très éprouvant, bon... qu'est-ce qu'on fait quand on vit? Ben, d'abord, on est un peu malade, on boit un peu trop. Verlaine est trop présent, enfin, je veux dire, il vous tue, hein, il vous dévore. Et c'est pour ça que là... D'ailleurs, j'ai pas envie de parler de Verlaine aujourd'hui, j'ai envie de parler de Tiepolo. Parce que Tiepolo, si vous voulez, c'est une peinture extrêmement aérienne, spectaculaire, etc. Il m'a permis de me sortir de Verlaine. Oui, Verlaine fait mal. Quand vous passez 3 ans avec Verlaine et dans ses problèmes et dans son alcoolisme, ses hospitalisations, etc., ça fait très mal et on ne va pas très bien, oui. Donc on a envie... Oui, j'en ai... D'ailleurs, à chaque fois, on me dit, tu fais une émission de radio, etc., sur Verlaine, et à chaque fois, j'ai envie de répondre, mais non, je ne peux plus sur Verlaine. Je ne peux plus parce que... Vous savez, Verlaine, qu'est-ce que c'est, sa vie? La vie de Verlaine, c'est une autodestruction. Il a construit sa destruction. Hein, il a construit sa mutilation. Vous vivez pendant 2 ans avec un type qui fait ça, et vous le racontez pendant 550 pages, ça fait mal à force. Et donc voilà, j'ai un peu une lassitude, un peu une souffrance. Et... Oui, est-ce compréhensible ?
Dire une chose, Alain Buzyn, écrire une biographie, c'est tout de même écrire une biographie. Hein. On ne peut pas en sortir, c'est-à-dire qu'on raconte la vie de quelqu'un dans l'ordre chronologique des faits. Hein. D'ailleurs, c'est l'ordre que vous avez adopté vous-même, sans ignorer les risques d'un tel dispositif, et en ne retenant, conformément à votre projet Histoire d'un corps, en ne retenant que les moments décisifs de la vie du poète, c'est-à-dire ceux où son corps a été mis en danger. Alors évidemment, c'est pas drôle pour celui qui vit ça, le biographe, mais il faut tout de même pas exagérer, parce qu'il y a un élément qui demeure important pour vous qui êtes un écrivain, c'est tout de même l'écriture. Et vous croyez dans les vertus d'une écriture littéraire, même si vous êtes auteur d'essais et de biographie. On ne peut pas faire le deuil de l'écriture pour écrire la vie d'un écrivain.
Alors, vous savez, cette question m'a été... C'est une vraie question. Hein. Cette question a été posée. D'abord, un livre est ce qu'il est. C'est-à-dire, on fait un projet. Le projet de ce livre-là était d'être une biographie. Point final. Il n'est pas un essai sur la poétique verlainienne, et je ne parle pas de la poésie de Verlaine. Où j'en parle quand même. Mettons, je me pose la question de savoir si entre le boitement de Verlaine et le verre impair, il y aura un rapport. Je me demande si entre l'alcoolisme et la déréliction qu'il suppose, enfin l'évanescence qu'il suppose, hein, je préférerais le terme l'évanescence, et l'évanescence des fêtes galantes, il y a un rapport. Donc, ce que j'essaie de montrer, c'est que le corps de Verlaine est fondamentalement le laboratoire laboratoire de sa poésie. Mais le livre n'a jamais prétendu être un essai sur la poétique de Verlaine. Et puis là n'est pas mon problème dans mes livres. Moi, je me demande à chaque fois pourquoi un écrivain fait cette chose absolument folle qu'est d'écrire. Je pense que c'est un geste très coûteux, très, très malheureux fondamentalement, ou un peintre de peindre, etc., ou un photographe de photographier. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est le coût de l'opération. Ce que je voulais montrer avec Verlaine, c'est que le coût de l'opération est maximum, c'est-à-dire ça le tuera. Hein, littéralement, au sens le plus strict. Enfin, ça finit dans les hospitalisations, ça finit de façon très sordide. Bon, vous avez dit tout à l'heure que d'ailleurs le livre est chronologique. Il n'est pas chronologique jusqu'à la fin. Il y a un moment, j'ai cassé la chronologie. J'ai décidé qu'à partir de la mort de la mère, il n'y avait plus de chronologie. Et que Verlaine... Dès lors que maman est morte, je crois qu'il faut dire maman, d'ailleurs, il ne faut pas dire la mère, dès lors que maman est morte, eh bien, ça n'a plus de sens. La durée n'a plus de sens. Et donc, on va être confronté à une vie absolument absurde chronologiquement. Donc, je ne crois pas. Enfin, la question, c'est de savoir si on peut encore faire une biographie. Mais vous savez, bon, on va dire les choses autrement, si vous m'autorisez un instant. J'ai fait partie des mouvements qu'on peut appeler d'avant-garde. Et on a cru à un moment qu'il n'y avait qu'une chose qui comptait, c'est le texte, et rien que le texte, uniquement le texte. Et c'était, bon, c'était notre mot d'ordre, notre combat, etc. Et puis, on s'est aperçu quand même les uns les autres, enfin. Et on est plus d'un dans cette situation qu'on oublie l'écrivain. Pourquoi je fais des biographies à l'heure actuelle? Pour dire que le sujet référent, le sujet quoi, avec en chair en os, continue à exister. Je sens que je vais revenir au texte. Mais j'ai senti que ce passage par la biographie était nécessaire à l'heure actuelle.
Vous allez revenir au texte en passant par le ciel de Tiepolo, alors.
Oui, mais des cieux, ce sont des objets picturaux, des objets de création. Enfin, je vais reparler de la création. Le prochain livre, je ne parlerai pas de la vie de Tiepolo. D'ailleurs, on n'en sait rien. Et je suis ravi qu'on n'en sache rien. Enfin, il semble que Tiepolo était un Vénitien heureux. C'est tout ce qu'on sait. Enfin, il a eu une vie assez heureuse. Enfin, ça a bien marché. Il a bien gagné sa vie avec sa peinture. Il a été heureux avec sa femme. Et donc la vie de Tiepolo est réglée en une page, quoi.
Pour revenir donc à la vie de Verlaine, c'est-à-dire avant tout à son autodestruction, son rapport à l'alcool, à la maladie, etc., la chute morale, chez lui, on peut dire que c'est pas un acte gratuit, c'est un investissement. Un investissement dont la rentabilité... s'appelle la poésie.
Oui, il faut même le dire comme ça. Il faut le dire en ces termes. Ça veut dire que l'image de Marx, c'est la destruction. Hein, je me détruis, donc je suis verlainien. Hein, vous savez que Verlaine, pendant les 10 dernières années de sa vie, c'est incroyable. Enfin, promène son corps déchu, enfin, promène sa lamentabilité, si j'ose dire, hein, de café en café, etc., dans tout Paris, dans le quartier latin. Et il dit... Et plus je suis détruit, et plus je suis déchu, plus je suis verlainien. Donc, sa malédiction n'est pas un objet, comment je dirais, pas une espèce de fatalité qui lui serait tombée sur la tête. C'est que sa destruction, c'est l'authentification de son écriture. Je ne suis plus rien, je suis lamentable, je suis imprésentable. Vous savez, les contemporains l'ont dit, enfin, voir Verlaine à la date, enfin, je veux dire, c'était... Je crois que c'est Maurras, en fait, qui raconte que Verlaine arrive dans un café, le François Ier, dans le quartier latin, bon, il déballe, enfin, ses affaires, il déballe ses quignons de pain, ses... Enfin, c'est lamentable, enfin, je veux dire, c'est affreux. Il y a un aspect affreux de Verlaine. Mais cette affrosité, si vous me permettez ce terme, cette affrosité, je crois que c'est son image de Marx. C'est comme ça qu'il construit sa poétique. Je suis intolérable. Et par rapport à Banville, hein, vous savez que Banville, lui, avait réussi, enfin, etc. Elle était à l'académie, etc. Il avait réussi dans les salons. Et Verlaine dit, je suis rejeté, donc je suis poète.
Devenir poète, Alain Buisine, c'est pas évident pour un fils de famille. Et c'est vrai que Verlaine était un fils de famille.
Père oui, Verlaine était un fils militaire. De famille, enfin, militaire.
Tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie. Mère
bah, je ne sais pas si on possessive. Si on réussit dans la vie qu'on a un père militaire. Ce qu'on peut en dire de façon très modeste, c'est qu'il était du côté de la loi. Hein, je veux dire, avoir un père militaire, c'est quand même la loi absolue. Et vous savez que Verlaine demeura toute sa vie extrêmement nationaliste, enfin, etc. La nationalité française, il tient énormément. Est-ce que devenir poète ? Mais vous savez, moi, je... Comment j'ai expliqué les choses ? C'est très dur d'expliquer ça. D'abord, je trouve que dans Verlaine, il y a énormément de mauvaises choses. Je veux dire que poétiquement, Verlaine, sur l'essentiel, il est décevant.
Oui, parce qu'il n'y en avait que des bonnes, ça se saurait. Hein.
Et, oui, mais ça se sait qu'il y en a beaucoup de mauvaises. Et Verlaine, il a fait une chose tout à fait étonnante dans sa vie, mais encore une fois, c'est un peu dur à expliquer. Verlaine aura passé sa vie à ne pas faire du Verlaine. C'est-à-dire que il y avait une espèce de génie intime de Verlaine, enfin, qui était le génie des fêtes galantes, etc. Et il aura passé sa vie à s'auto-saboter. Si vous prenez, enfin, je sais pas, Dédicace, les derniers recueils, moi, je somme à Verlainien de me dire que c'est satisfaisant. Et qu'est-ce que fait Verlaine pendant toute une existence entière? Il passe sa vie à ne pas aller du côté de son génie.
Jusqu'au dernier poème, d'ailleurs. Oui. Hein, dans les dernières pages de votre livre, vous montrez qu'il est en train de corriger un poème.
Oui, ce qui est quand même un geste fou. Il aurait été jusqu'au bout de son génie, je crois, jusqu'à l'épisode de Rimbaud. Et je crois que la rupture avec Rimbaud l'a complètement démoli. Enfin, faut le dire avec cette simplicité. Et ensuite, alors, je sais bien, les collègues me disent, mais si, c'est bien, c'est pas si mal. On peut faire comme ça, il se parodie, il se moque de lui-même, etc. Oui, mais il ne fait pas du Verlaine. Je veux dire, il a une volonté d'autodestruction, donc l'autodestruction, je veux dire, biographique, j'essaie de montrer dans ce livre, est aussi une volonté d'autodestruction poétique. Hein. Je veux dire, c'est un type qui aura passé sa vie à ne pas écrire ce qu'il aurait pu écrire. Ce qui est quand même, hein, je veux dire, c'est quand même une chose tout à fait étrange.
Hein, comment vous l'expliquez, cette chose ?
Eh bien, si je devais l'expliquer, je dirais que on revient en père militaire. Verlaine désirait être du côté de la loi. Et la loi, il a toujours désiré. Et un désir de la loi, et puis il l'a transgressé. Et que cette transgression lui était, bon, comment je veux dire, insupportable. Et donc, la poésie la plus nulle était une espèce de rattrapage de cette transgression de la loi. Et donc, je détruis ma vie, mais je fais du texte clean. Hein, vous savez que les textes, en particulier les textes en prose, sont désastreux, il faut le dire. Enfin, c'est véritablement, c'est épouvantable. Donc, on ne peut... Je veux dire, c'est très bien, Verlaine, mais on ne parle que des premières années. Et toute l'œuvre poétique qui suit est... Ah, comment... Je ne sais pas le terme. Mais... Enfin, ça fait très mal, quoi. Ça fait très mal. Je veux dire, même un lecteur comme moi, bon, je veux dire, en 96, quand on lit Sagesse...
Ça vous rend pas sage.
Ah ouais, c'est très dur. C'est quand même très dur. C'est quand même très dur.
La fuite en avant, Alain Buisine, on peut dire qu'elle commence dès la première publication, c'est-à-dire dans le 9e numéro du Parnasse contemporain en 1866, parce qu'en fait, Verlaine, l'esthétique parnassienne, il n'en a pas grand-chose à faire.
Non, il n'en a rien à faire d'ailleurs. Mais Verlaine est un type palinodique. Hein, je veux dire, il n'écrit qu'à condition de se trahir. Et donc l'esthétique parnassienne est évidemment très très loin de sa propre esthétique, hein, qui est, bon, son esthétique est mouvante, mobile, etc. Alors que l'esthétique parnassienne suppose une espèce de figement sculptural, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Donc, oui, non, mais il n'écrit qu'à condition de se trahir. Simplement, ce que je voudrais faire entendre aux auditeurs, c'est qu'à un moment, la trahison est plus... La trahison est plus importante que la poésie. Et la poésie ne reste plus. Jusqu'où peut-on se trahir quand on écrit? Il y a un moment, la trahison a détruit la poésie.
L'admiration de Mallarmé, qui ne s'est jamais démentie, va à la trahison?
Mais Mallarmé a un texte extrêmement ambigu. Hein, je veux dire, l'éloge funèbre de Mallarmé est extrêmement ambigu. Enfin, ce qu'il raconte, c'est que Verlaine... Se trahissant ne s'est jamais trahi, et que sa trahison était sa position même. Enfin, curieusement, Verlaine ne parle pas de la poésie. Il parle du sujet. Il parle du sujet biographique. Moi, je me suis autorisé à terminer d'ailleurs le livre sur le texte de Mallarmé, mais c'est intéressant. Enfin, même Mallarmé a la sensation quelque part que le sujet biographique l'emporte sur le sujet poétique.
Donc il a un peu la même intuition que vous.
Écoutez, là, je n'irai pas jusque-là. Je dirais que j'ai peut-être, quand même, renversé les choses. J'ai peut-être la même intuition que Mallarmé. Non, mais il faut remettre les choses dans l'ordre, si vous m'autorisez.
Tout le monde attend qu'on en parle, Alain Buisine. Alors on ne va quand même pas passer sous silence la grande rencontre.
Non.
La rencontre avec Arthur.
Mais si vous voulez, dans mon livre, j'ai fait quelque chose d'un peu scandaleux à cet égard. C'est que j'ai quand même essayé de la passer sous silence. L'idée, c'est qu'Arthur a eu tous les droits depuis bien des années, enfin je veux dire, Arthur a eu toutes les biographies qui lui revenaient, enfin, etc., tous les textes, etc. Et que pour une fois, oui, je voulais raconter l'histoire de Paul et pas celle d'Arthur. Hein, je veux dire, il y a eu tellement, tellement, tellement de textes qui étaient consacrés à Arthur Rimbaud. Et donc, c'est une biographie, effectivement, qui efface un peu. C'est une biographie qui efface un peu le statut d'Arthur. Oui, je n'ai pas trop envie d'en parler.
Vous appelez ça la crise Rimbaud, ce chapitre?
Moi, je pense que rencontrer Rimbaud, ça a dû être une chose incroyable. Je suis quand même le premier qui me demande quand ils se sont mis à coucher ensemble, par exemple. Hein, quelles ont été leurs relations sexuelles? Parce que, vous savez, tout ça, c'est absolument génial dans les biographies rimbaldiennes. C'est passé sous silence, comme on dit. Moi, je dis dans le livre que je n'en sais rien quand leur relation sexuelle a commencé, mais je souhaiterais qu'elles aient commencé le plus rapidement possible. Et que tout ce que je peux leur souhaiter à Arthur Rimbaud et Paul Verlaine, c'est d'avoir pris leur pied au maximum et le plus vite possible. Est-ce clair?
C'est pas une déchéance quand deux hommes couchent ensemble?
Non. Non, moi j'ai pas vu de déchéance, j'ai eu du plaisir. Je pense que il y a eu un désir qui les animait, qui était formidable. Et non, pourquoi vous me posez la question de savoir si c'est une déchéance? Non, moi je vois pas de...
Je veux dire, on peut pas mettre la rencontre avec Rimbaud sur le compte de l'expérimentation de la déchéance voulue par Verlaine, telle que vous la racontez.
Là, c'est une question vicieuse.
Oui.
Là, c'est une question vicieuse. Comment je vais dire ? Je pense que non, ce n'est pas une déchéance. Ça, c'est sûr. Mais je pense que Verlaine a vécu comme ça. Ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire que Verlaine a vécu comme une transgression de la loi. Il l'a très mal vécu. Moi, je pense qu'il a très mal... L'homosexualité, il l'a très mal vécu. Alors, moi, j'ai pas à dire maintenant, un siècle après, c'est une déchéance, etc. Mais je pense que Verlaine l'a ressenti comme tel. Ça, c'est différent. Si vous, hein, je veux dire, mon jugement, entre guillemets, d'Alain Buzyn un siècle après, et le jugement, l'auto-jugement de Verlaine à la date, ça, c'est des choses très différentes. Moi, je pense qu'il a mal vécu. Il a vécu comme une transgression.
C'était une expérience sexuelle ou une histoire d'amour ?
Vous faites une différence.
Il peut y en avoir.
Qu'est-ce que je répondrais ? Une expérience sexuelle, plutôt. Je crois que Rimbaud était extraordinairement beau. Et je crois que Verlaine a crevé de désir pour Rimbaud, quoi. Voilà. Et jusqu'à la fin de sa vie, vous savez que Verlaine y revient constamment sur la beauté. La beauté d'Arthur, le portrait d'Arthur, et si on représente Arthur, il faut le représenter correctement, et si on fait son portrait, il ne faut pas le rater. Mais je ne sais pas si à 47 ans, j'arrive encore à distinguer les histoires d'amour et les aventures sexuelles.
Jamais Verlaine n'oubliera Rimbaud.
Ah ben non. Non, non, il n'oubliera jamais. Il va passer d'ailleurs sa vie à le republier, à retrouver ses textes, à le rétablir au sens fort du terme. Vous savez que la grande obsession de Verlaine, ça va être de retrouver la figure d'Arthur. Et donc, le représenter, le mettre en scène, hein, le représenter, mais au sens strict du terme, c'est-à-dire comment on peut en faire des lithographies, comment on peut en faire des images, etc. Et donc, il y a un désir comme ça de résurrection iconique, si j'ose dire. Je veux retrouver mon Arthur tel qu'en lui-même il était présent, sa figure. Ah oui, jamais. Et ça deviendra d'ailleurs de plus en plus obsessionnel chez Verlaine.
Mais Rimbaud, lui, ne cessera d'accuser Verlaine de lâcheté, de faiblesse.
Bah oui, mais Rimbaud, c'était le fort des deux. Moi, j'ai fait la biographie du faible. Et donc, je suis peut-être pas obligé de le répéter aujourd'hui. Je pense que Rimbaud, oui. Rimbaud, c'est de la puissance. Verlaine, c'était la... Je n'aime pas dire faiblesse, mais comment je dirais aujourd'hui ? Un retrait. Une impuissance assumée. Un rapport à la loi qui était difficile, une culpabilisation.
Il y avait Mathilde, quand même.
Mais Mathilde était rien, enfin. Je veux dire... Qu'est-ce qu'était Mathilde ? Qu'est-ce que désirait Verlaine dans Mathilde ? Il ne désirait pas se marier avec Mathilde. Il désirait le désir du mariage. Ce qui est quand même très différent. C'est-à-dire que ce qui était bien dans Mathilde, c'est le mariage lui-même. Mathilde, il n'en a rien. Rien à faire, à la limite. Hein, ce qu'il voulait, c'est se remettre dans la loi. Et il a cru à un moment que se marier de façon très bourgeoise, avec une petite bourgeoise, etc., lui permettrait de pas sombrer. C'est ça qu'il a désiré dans Mathilde. Mais Mathilde était... Elle n'a rien compris à Verlaine. Rien compris à Rimbaud, d'ailleurs. Rien compris à Verlaine. Mais Verlaine est absolument abominable dans la vie conjugale. Ça, il faut le dire aussi. Mais ce qu'il désirait quant à lui, c'est se mettre avec elle pour retrouver une forme de la loi. Hein, il veut être contraint. Il ne faut jamais oublier que Verlaine, c'est un sujet qui veut toujours être contraint.
Les 10 dernières années de la vie de Verlaine, Alain Buisine, évidemment, c'est pas très drôle. Hein. C'est plutôt le genre de descente aux enfers. Naufrage, chute, prodigieuse.
Oui, les 10 dernières années, c'est sordide. Faut le dire vraiment. Ça, les 10 dernières années, d'ailleurs, je les ai pas écrites dans l'ordre chronologique. Je refusais que la chronologie fonctionne encore. Et je feuillette le livre là dont les auditeurs. Voilà. Qu'est-ce que. Je reprends les titres, si vous voulez bien.
Oui, parce qu'il y a même une table des matières.
Oui, oui. Du côté des hôpitaux. C'est nul, hein. Je veux dire, c'est nul. Je veux dire, il passe sa vie dans les hôpitaux.
Il s'installe dans la maladie.
Oui. Dernières aventures. C'est de putain, quoi, en gros, hein. Dernières écritures. C'est tragique, enfin, c'est nul. Dernier voyage et travail du deuil, qu'est-ce qu'il fait? Il repasse sur les lieux qu'il avait connus, pour essayer, comment je veux dire, d'en faire le deuil. Dernier visage. C'est abominable, hein. Il faut imaginer ce qu'est le dernier Verlaine. Et j'achève en disant, mort et résurrection d'un visage. Ça veut dire que ces 10 dernières années sont une espèce de... Oui, descente aux enfers, j'emploie l'expression, mais... Comment un sujet fait tout ce qu'il faut pour se détruire? Ça, je veux dire, il y a une abomination, parce que l'écriture ne fonctionne plus. Les relations sexuelles sont nulles, enfin, je veux dire, avec... Si les auditeurs veulent s'amuser, vous savez, l'une des deux s'appelait Philomène Boudin. Je veux dire que le nom lui-même est tout un programme. Donc, oui, il y a une autodestruction.
C'est-à-dire que c'est la revanche de la loi, de la contrainte. L'hôpital, c'est les heures fixes, c'est la prise en charge.
Oui, c'est fait Oui, ça c'est une bonne idée. C'est fait prendre en charge à la fin de sa vie. Il va à l'hôpital parce que le repas est à telle heure, parce que le passage du médecin est à telle heure, etc. Et oui, la loi revient. Hein, je veux dire, vous savez, d'une enfance militaire à une vieillesse hospitalière, si je puis dire, il y a une grande logique. Oui, la loi revient. Et donc, ce qu'il désire, c'est ce retour de la loi, oui. Ça lui fait plaisir. Hein. D'ailleurs, il était très heureux à l'hôpital.
Alors, une œuvre pas très bonne, une vie sordide. Je comprends toujours pas pourquoi vous avez écrit 500 pages sur Verlaine.
Mais parce que j'aime bien les écrivains qui se mettent en l'air. Vous savez, j'ai commencé par un livre qui s'appelait « L'aideur de Sartre ». Et Sartre est un type admirable, mais les meilleurs textes de Sartre, c'est ceux qu'il n'a jamais publiés, paradoxalement. Hein, les textes sur le Tintoret, les textes sur Venise, les inédits qu'on retrouve à l'heure actuelle. J'ai continué avec des textes sur Loti, j'ai continué avec des textes sur Proust. Alors là, par contre, Proust est ma grande admiration. Ce qui m'intéresse, moi, dans la littérature, étant bien entendu qu'on est personne n'est obligé de faire la même chose. Ce qui m'intéresse, c'est comment un sujet se détruit sous prétexte de faire création. Ce que je peux dire, c'est que je fais... Voilà, c'est la dernière fois. J'ai décidé maintenant de prendre à l'avenir des écrivains qui ne sont plus malades, qui ne sont plus alcooliques, qui ne sont plus à l'hôpital. Le premier que je prendrai, ce sera Tiepolo. Je prends des biens portants. Moi-même, j'en ai assez de vivre avec tous ces...
Ils sont morts quand même, hein?
Oh, ils sont... Non, ils sont pas morts. Ils vont très bien. Tiepolo va très bien, le sur ses ciels de Venise. Non, mais... C'était une expérience pendant 15 ans dans ma vie de vivre avec des gens comme ça qui allaient mal. Et voilà, je crois que moi-même, je suis un peu fatigué. Et donc, j'en vais bien rester là.
Verlaine, Histoire d'un corps, par Alain Buisine, aux éditions Talendier. Du jour au lendemain, Simone Rongé, Bruno Sorcy, François Poirier, Alain Weinstein. Bonsoir.
Cette émission a été diffusée le 16 février 1996 sur France Culture.